Alors, Antonio Labati va nous lire une lettre de à Marie Ménessier-Nodier, lettre d'Alexandre Dumas.
Chère madame, en voyant la date de cette lettre entre Carthage et Tunis, vous demanderez peut-être qui peut vous écrire d'un pareil endroit, et vous espérez recevoir un autographe de Régulus ou de Louis IX. Hélas, madame, celui qui met de si loin son humble hommage à vos pieds n'est ni un héros ni un saint, et s'il a jamais eu quelque ressemblance avec l'évêque d'Hippone, dont il compte bien visiter un de ses jours le tombeau, ce n'est que pendant la première partie de sa vie. Il est vrai qu'il peut racheter cette première partie de sa vie par la seconde, mais il est déjà bien tard pour faire pénitence, et selon toute probabilité, il mourra comme il a vécu, n'osant pas même laisser ses confessions qui peuvent à la rigueur se raconter, mais qui ne peuvent guère se lire. Vous avez déjà couru à la signature, n'est-ce pas? Et vous savez à qui vous avez affaire. Maintenant, vous vous demandez comment, entre ce magnifique lac qui est le tombeau d'une ville et ce pauvre monument qui est le sarcophage d'un roi, l'auteur des Mousquetaires et de Monte Cristo a songé à vous écrire, justement à vous, quand, à Paris, à votre porte, il demeure quelquefois un an sans aller vous voir. D'abord, madame, Paris est Paris, c'est-à-dire une espèce de tourbillon où l'on perd la mémoire de toutes choses au bruit que fait le monde en courant et la terre en tournant. Or, à Paris, je fais comme le monde et comme la terre. Je cours et je tourne, sans compter que lorsque je ne cours ni ne tourne, j'écris. Alors, madame, c'est autre chose, et je ne suis pas si séparé de vous que vous le pensez. Car, soyez-en certaine, vous êtes une des rares personnes pour lesquelles j'écris. Tant il y a que cette nuit, j'ai rêvé, je n'ose pas dire à vous, mais de vous, oubliant la houle qui balançait un gigantesque bâtiment à vapeur que le gouvernement me prête et sur lequel je donne l'hospitalité à un de vos amis, à Boulanger et à un de vos admirateurs, à mon fils, sans compter Giraud, Maquet, Chancel, qui se rangent au nombre de vos connaissances. Tant il y a, dis-je, que cette nuit, je me suis endormi sans songer à rien. Génie est venu me visiter et m'a fait entrer dans un pays dont vous étiez la reine. Ce lieu où il m'a conduit, ou plutôt ramené, madame, était bien mieux qu'un palais, bien mieux qu'un royaume. C'était cette bonne et excellente maison de l'arsenal au temps de sa joie et de son bonheur, quand notre bien-aimé Charles en faisait les honneurs avec toute la franchise de l'hospitalité antique, et vous, madame, avec toute la grâce de l'hospitalité. Voyez qu'en écrivant ces lignes, je viens de pousser un gros soupir. Ce temps a été un temps heureux. Votre esprit charmant en donnait à tout le monde. Et quelquefois, à moi, plus qu'aux autres. Vous voyez bien que c'est un sentiment égoïste qui me rapproche de vous. Je vous empruntais quelque chose de votre adorable gaieté, comme le caillou du poète Saadi emprunte une part du parfum de la rose. Vous rappelez-vous le costume d'archer de Paul et les souliers jaunes de Francisque Michel? Vous rappelez-vous mon fils en débardeur et votre serviteur en postillon? Vous rappelez-vous enfin cet enfoncement du salon où était le piano et où vous chantiez la Zara, merveilleuse mélodie que vous m'avez toujours promise et que, sans reproche, vous ne m'avez jamais donnée? C'est après toutes ces choses que courait ce gros soupir dont je vous parlais et qui, malgré la charmante brise qu'il fait, ne rattrapera jamais ces chers souvenirs que le temps entraîne sur ses ailes silencieuses dans la brume grisâtre du passé. Eh bien, madame, voilà ce monde évanoui qu'un rêve vient de me rendre aussi brillant, aussi visible, et malheureusement aussi impalpable que ces atomes qui dansent au milieu d'un rayon de soleil filtrant dans une chambre sombre à travers l'ouverture d'un contrevent. Vous étonnez plus de cette lettre, n'est-ce pas? Le présent chavirerait sans cesse s'il n'était maintenu en équilibre par le poids des espérances et le contrepoids des souvenirs, et je suis de ceux chez lesquels les souvenirs commencent à l'emporter sur les espérances. Que fait mon ami Boniface? J'ai visité hier une ville qui lui vaudra bien des pensums quand il rencontrera en cinquième cet infâme usurier qu'on appelle Salluste. Cette ville, c'est Bizerte. Giraud y a fait le portrait d'un notaire et de son maître clerc. Je vous les envoie pour que vous puissiez les comparer à maître Outrebon et à son maître clerc. Je doute que l'avantage reste à ces derniers. Moi, j'y suis tombé à l'eau, à Bizerte, bien entendu, en chassant des cygnes, accident qui, dans la Seine, probablement gelé à cette heure, aurait pu avoir des suites fâcheuses, mais qui, dans ce lac de Jugurtha, n'a eu d'autre inconvénient que de me faire prendre un bain tout habillé. Je voudrais partout où vous êtes conduire un rayon de ce beau soleil qui chauffait le lac, ne fût-ce que pour faire éclore sur votre fenêtre une touffe de forget-me-note. Adieu, madame. Pardonnez-moi cette longue lettre, je ne suis pas coutumier de la chose. Et comme le pauvre enfant qui se défendait d'avoir fait le monde, je promets que je ne le ferai plus. Mais aussi, pourquoi le concierge du ciel a-t-il laissé ouverte cette porte d'ivoire par laquelle sortent les songes dorés? Veuillez agréer, madame, et faire agréer à madame Nodier l'hommage de mes sentiments les plus respectueux, Alexandre Dumas. Je